Radio Okapi.
Grâce à Mzati à la présentation.
Situation tendue ce lundi matin à Turunga, dans le territoire des Niragongo. Nous sommes au nord Kivu. À la base, une rumeur qui a circulé faisant état de meurtre par balle hier soir des deux jeunes habitants de cette localité du groupe Mamunigi. Les écoles du territoire de Kibombo, dans la province éducationnelle Maniema 2, réalisent trois années successives sans avoir les bulletins de fin de l'année. Parmi les causes, l'arrivée en retard et le nombre insuffisant des bulletins que reçoivent les chefs d'établissement par rapport à l'effectif des élèves. L'invité de ce journal est le conseiller en charge de la programmation, suivi et évaluation du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, Patrice Ansigle. Modeste Malechene va nous parler des 18 stations d'alévinage installées dans la ville de Kindo, Maniema, et dans les territoires de Kailo Opangi, ayant reçu des semences de Claria et Tilapia. Madame, messieurs, bonjour. Nord Kivu pour commencer. La situation était tendue ce lundi matin à Turunga, dans les territoires des Niragongo. À la base, une rumeur qui a circulé faisant état du meurtre par balle hier dimanche soir de deux jeunes gens habitants de cette localité du groupe Mamunigi. Du coup, la population en colère a barricadé la route à la de Goma à Turunga avec des grosses pierres. Aux dernières nouvelles, la route a été réouverte et on apprend que les deux jeunes ne sont pas morts. Ils sont plutôt blessés et suivent les soins à l'hôpital Sebekandosho. Zabayo Faustin de la jeunesse de Niragongo revient sur la situation. Il a été joint par Chris Mukand.
Des bandits en armes se sont introduits dans le village Turunga, localité Maendeleo, et ils voulaient ravir des jeunes garçons leur téléphone. Malheureusement, il y a une résistance. Et les deux bandits ont tiré sur les deux jeunes garçons, dont l'un est âgé de 16 ans et l'autre est âgé de 17 ans. L'un a reçu des balles dans les jambes et l'autre dans les bassins. Et présentement, ils sont internés à l'hôpital Sebekandosho. Les deux bandits, après avoir tiré sur les deux personnes, ils ont fui en prenant la direction de Kiziba. C'est ce qui a été à la base des vivitations ce matin, et la population en colère a barricadé la route au niveau de Turunga. Heureusement qu'il y a eu implication des autorités locales et présentement la situation est sous contrôle. Et nous continuons à dénoncer l'insécurité qui devient de plus en plus grandissante. Nous demandons vraiment qu'il y ait renforcement des effectifs policiers dans le village Turunga, mais aussi nous demandons au gouverneur des provinces qui est militaire de mettre fin à la circulation sans contrôle des armes, puisque c'est ce qui est à la base de l'insécurité.
Restons au nord Kivu. Des combats opposent depuis tôt ce lundi l'armée congolaise et ses alliés aux rebelles du M23 RDF sur au moins deux lignes de front. C'est entre autres sur l'axe Kikuku-Kanyabayonga dans la chefferie de Buito, territoire de Rutshuru, ainsi qu'autour de la colline stratégique de Ndumba dans la chefferie de Baoundé, territoire de Masisi. Toutes ces zones sont presque entièrement vidées de leurs habitants. Bernard Denyangi.
C'est au petit matin, autour de 5 heures locales ce lundi, que les affrontements ont encore repris, avec une forte intensité entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 RDF dans le village Kitereko, Lusulie, Kanongo. C'est non loin du chef-lieu du groupement Mutanda dans la chefferie de Buito. Selon les sources locales, ceci intervient après des affrontements signalés dans la même zone toute la journée d'hier dimanche. Conséquence, presque tous les villages situés entre Kikuku et Kiala sont vidés de leurs habitants. Toute la matinée, l'armée a poursuivi le pilonnage de Mutanda et ses environs pour, entre autres, tenter d'empêcher l'avancée des rebelles vers Kanyabayonga. Du côté du territoire de Masisi, nos sources parlent d'affrontements qui reprennent ce lundi entre l'armée congolaise et les rebelles autour de la colline stratégique de Ndumba, une colline surplombant le village de Chacha. L'armée aurait l'intention de déloger complètement les rebelles de Chacha et Bitonga, indiquent nos sources. Elles ajoutent aussi que la situation est tendue ce lundi dans le village de Lumbishi, territoire de Calais, c'est au sud Kivu. Ce village aurait été occupé hier dimanche par les rebelles. Dion 23, Goma, Bernard Denyangi, Radio Okapi.
Pendant ce temps, dans les territoires de Beni, dans la même province du Nord Kivu, une dizaine de journalistes et administrateurs des groupes WhatsApp de la cité frontalière de Kasindi ont été outillés hier en matière de lutte contre la désinformation et les discours de haine. C'est une formation organisée par l'amicale des journalistes du groupement de Basongora. Selon Fred Mastaki, le président de cette corporation des journalistes, l'objectif était d'outiller les participants afin qu'ils soient en mesure de lutter contre la désinformation informations sur les réseaux sociaux. Fred Mastaki explique au micro d'André Kitenge.
C'est dans le but de faire face à un grave fléau qui ravage actuellement le monde. Nous avons outillé les participants sur l'impact néfaste de la désinformation et la mésinformation sur les réseaux sociaux pour essayer de minimiser la distillation de messages de haine, les intox et autres formes négatives de propager de fausses rumeurs sur les réseaux sociaux. Nous avons également profité de cette occasion pour vulgariser la nouvelle loi sur le numérique qui vise à réglementer le secteur de la nouvelle technologie dans notre pays. Le résultat attendu de ces séminaires, c'est que nous sommes en train de voir comment minimiser les effets néfastes, les effets négatifs de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. L'amicale des journalistes du groupement Basongora AJB compte aussi, selon les recommandations des participants, étendre cette sensibilisation dans plusieurs entités du secteur de Rwenzori, dans plusieurs entités de notre région de Beni, pour essayer au moins de mettre fin à ce grave fléau, parce que la désinformation, c'est aussi une arme fatale pour détruire le monde.
Et dans la province de la Tchopo, la division des affaires politiques de la MONUSCO Kinshasa et les bureaux congés des Nations Unies aux droits de l'homme, bureau des terrains de Kisangani, apportent leur contribution à la résolution du conflit intercommunautaire Mbole-Lengola et à la réinstauration de la paix et la cohabitation pacifique entre ces deux communautés dans la province de la Tchopo. C'est dans cette optique qu'ils organisent un atelier de 3 jours, soit du 27 au 29 mai à Kisangani, lequel porte sur le renforcement des mécanismes de résolution pacifique des conflits et la protection des populations civiles dans le cadre des conflits. Un compte rendu de Jacques Mukonkole.
Une cinquantaine de personnes, notables Mbole et Lengola, leaders religieux, personnalités politico-administratives, militaires, judiciaires et membres de la société civile, participent à ces assises. Objectif, réfléchir afin de proposer des solutions idoines susceptibles de mettre un terme à ces conflits sanglants qui déchirent les communautés Mbole et Lengola. Sylvain Massoudi, officier du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, bureau de terrain.
Nous pensons qu'à l'issue de nos travaux en Carrefour, des réflexions qui sortiront et aideront les différentes autorités provinciales en matière qui leur serviront plus tard dans le cadre de la mise en place de la seconde phase de cette activité, c'est-à-dire l'organisation de la table ronde qui va réunir toutes les autorités ainsi que les forces vives de la Tchopo.
Pour le délégué du gouverneur intérimaire de la Tchopo, sans la paix, aucun développement n'est possible. Freddy Dikombe espère que les réflexions issues de cet atelier vont contribuer effectivement à l'avènement de cette paix tant recherchée par tous.
J'ose croire que toutes les propositions seront entreprises dans ces assises iront dans le sens de restaurer la paix durable entre les communautés.
Pour cette première journée, 3 exposés ont été présentés tour à tour par les professeurs Alphonse Maindo, maître Patient Biselengue et le ministre provincial Heri Baraka. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Comme annoncé dans les titres, les écoles du territoire de Kibombo dans la province éducationnelle Maniema 2 réalisent 3 années successives sans avoir les bulletins de fin d'année. L'information est livrée par la société civile locale et confirmée par les directeurs de la province éducationnelle Maniema 2. Parmi les causes, l'arrivée en retard et le nombre insuffisant des bulletins que reçoivent les chefs d'établissement par rapport à l'effectif des élèves. N'est-ce pas, Florence Kizalonga?
Selon François Tamboué, président de la société civile Force Vive du Maniema, antenne de Kibombo, cette situation a des conséquences graves pour le suivi des élèves.
Ça fait aujourd'hui plus de 3 années successives où les enfants, lors de la proclamation, ils ne reçoivent pas les bulletins. Alors, on se demande pourquoi les autorités font payer l'argent de bulletins chaque année, mais le bulletin, à la fin de l'année, les enfants ne reçoivent pas les bulletins. Si le gouvernement n'est pas prêt à octroyer les bulletins aux enfants, pourquoi il reçoit chaque année les frais de bulletin, 1000 francs pour chaque élève, au nombre de tous les enfants qui sont ici au secondaire?
François Tamboué ajoute que cette situation constitue des fraudes dans le parcours des élèves.
Vous savez, manquer le bulletin 3 années, c'est plonger même les enfants dans une génocide intellectuelle, puisque ça favorise alors de fraude massive aux enfants qui, dans une école, il a échoué, il quitte cette école pour aller ailleurs. On ne demande rien puisqu'il n'y a pas l'octroi de bulletins.
Contacte les directeurs de la province éducationnelle Maniema 2, confirme cette information. Clément Mukanya promet de décanter la situation. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Par ailleurs, une baisse sensible des cas de décès dus à la malnutrition s'observe depuis plusieurs mois dans la prison de Matadi, communément appelée Kamulai.
À en croire le directeur de cette maison carcérale, cette situation est consécutive à l'amélioration de l'alimentation des prisonniers depuis qu'il est à la tête de cette prison. L'ONG Fraternité des prisons, qui mène une mission de monitoring pour les conditions de détention, confirme cette baisse des cas de décès dans la prison centrale de Matadi. Pasteur Néhémie Nkoussou appelle les autorités à tout mettre en œuvre pour améliorer aussi les conditions d'hébergement dans cette prison. Nana Plurichimambo nous en dit plus.
Selon Joseph Bikoko, directeur de la prison centrale de Matadi, c'est grâce notamment à la bouillie sur base du maïs et du soja que la prison donne aux détenus présentant des soucis de santé et à l'induction de légumes variés dans leur alimentation que les détenus ne meurent plus de la malnutrition. Cette baisse des cas de décès qui s'observe depuis plus d'une année est confirmée par l'ONGDH Fraternité des prisons. Néhémie Nkoussou est son coordonnateur provincial au Congo central.
Nous avons remarqué par notre travail de routine au quotidien et aussi par le monitoring que les cas de décès dus à la malnutrition ont été sensiblement réduits dans cette prison. Et aussi les produits pharmaceutiques que prennent les tuberculeux, ils sont ravitaillés de temps en temps. Mais ce que nous pouvons recommander au gouvernement, c'est de continuer à renforcer cette alimentation et ces conditions pour que réellement nos détenus puissent continuer à jouir d'une bonne santé.
Cependant, Joseph Bikoko révèle que 20 détenus sont malheureusement décédés suite notamment aux mauvaises conditions d'hébergement. C'est pourquoi il plaide pour l'amélioration de la desserte en eau potable et de l'électricité dans la prison, ainsi que la dotation des matelas et autres biens nécessaires au profit des pensionnaires. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur la fréquence de la paix. Des organisations des droits de l'homme de la RDC déplorent les irrégularités ayant émaillé l'élection du gouverneur et vice-gouverneur du Haut-Tuélé. Ces structures ont exprimé leur désapprobation dans une déclaration faite ce week-end ici à Kinshasa. Parmi ces irrégularités, elles citent entre autres les tripatouillages des résultats, la séquestration, les menaces ainsi que les intimidations de certains députés provinciaux avant et pendant ces votes. Ainsi, ces organisations de la société civile appellent à l'annulation pure et simple de ces scrutins pour redorer l'image du Haut-Tuélé, comme indique leur porte-parole Dieudonné Mushagalusa au micro de Blaise Dongala Mayanda.
Il est connu de tous qu'il y avait eu des irrégularités criantes, des violations graves de la loi électorale, des tripatouillages au niveau des scrutins, des inadéquations dans les procès-verbaux en rapport avec l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de Haut-Tuélé. À son temps, nous avions alerté sur ces faits graves. Contre toute attente, la cour d'appel de Sirova cautionnait ces irrégularités et n'a pas voulu corriger ce qu'elle pouvait corriger comme cour administratif. Et donc, face au regard de tout ce qui a eu comme indignation, tout ce litige va être amené au Conseil d'État. Et nous sommes convaincus que, comme régulateur des droits, le Conseil d'État va annuler l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de Haut-Tuélé pour finalement redorer l'image de la justice, pour restaurer la paix sociale, et également quand même consolider l'état des droits.
Parlons de cette mise au point de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. C'est après que la GECAMINE s'est opposée à la vingtaine d'entreprises sous-traitantes recommandées par l'ARSP à Tenkefungurum Mining. L'ARSP rappelle à l'ordre les autorités de la GECAMINE sur ce qu'elle qualifie d'exclusivité de ses prérogatives légales sur la sous-traitance et le développement du contenu local. Cette réaction est contenue dans une correspondance rendue publique ce lundi. Explication de Cynthia Bachizi Nabizana.
C'est la réponse du berger à la bergère dans cette correspondance adressée au directeur de la GECAMINE. Le numéro 1 de la RSP précise que la GECAMINE est une société commerciale œuvrant dans le secteur minier. Elle a pour but la prospection, la recherche et l'exploitation des gisements miniers. Et de ces faits, la GECAMINE n'a pas de prérogatives particulières pour gérer les activités de la sous-traitance, explique Miguel Cachal-Katimbe. C'est ainsi qu'il demande à la GECAMINE d'éviter de bloquer la réalisation de la vision du chef de l'État, qui est celle de promouvoir l'accès des entrepreneurs congolais au marché jadis occupé par des entreprises sous-traitantes non éligibles. Pour rappel, dans une lettre signée entre autres par le directeur général de la GECAMINE et adressée au président du groupe CEMOC, géant mondial du cuivre qui détient Tenkefungurum Mining, la GECAMINE reprochait à l'ARSP de s'arroger de ses charges d'actionnaire dans TFM. Conséquence, la société minière publique dit ignorer le contenu des entendements convenus entre l'ARSP et TFM, le protocole d'accord signé entre la Gécamine et Tenke Fungurume Mining ne peut être opposé à l'ARSP, explique Miguel Cachal Katemb.
Actualité internationale.
Le gouvernement kenyan a dressé le bilan des inondations dévastatrices de ces derniers mois. C'est près de 300 personnes qui ont perdu la vie et plus de 200 000 qui ont été déplacées depuis le mois de mars en raison des crues soudaines provoquées par les fortes pluies actuelles. Les Palestiniens accusent Israël d'un massacre après des frappes contre des déplacés à Rafah. Selon les autorités du Hamas, au moins 35 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lors du bombardement par Israël d'un centre pour des personnes déplacées près de Rafah, ville du sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne a affirmé pour sa part qu'un de ses avions avait frappé un complexe du Hamas à Rafah dans lequel opéraient d'importants terroristes.
L'invité.
C'est Modeste Malechene, conseiller en charge de la programmation, suivi et évaluation du programme d'appui au développement rural et inclusif et résilient. Il nous parlait des 18 stations d'alévinage installées dans la ville de Kindu, Maniema, et dans les territoires de Kailopangi, et a reçu des semences de Claria et Tilapia. Modeste Malechene et notre invité s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Modeste Malechene, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Modeste, vous venez d'une, une visite de suivi. Après avoir visité ces stations dans le village, vous avez quelques instants.
Oui, je suis venu en visite pour voir les effets des alevins que nous avions envoyés ici au profit des stations d'alevinage. Et après la tournée, j'ai constaté que tout ce que nous avons envoyé est tombé entre de bonnes mains et c'est en train de résoudre un grand problème d'accès aux poissons dans la ville de Kindu. Et nous espérons que ceci n'est qu'un début, donc que prochainement, nous allons trouver que le travail a encore été fait de manière beaucoup plus agréable. Mais sinon, je suis tout à fait satisfait des résultats que j'ai vus sur le terrain.
Qu'est-ce que Padrir vise en donnant aux pisciculteurs les alevins?
Oui, le Padrir vise en premier lieu de mettre en place des stations d'alevinage parce que nous voulons développer la filière halieutique à travers la pisciculture. C'est pourquoi nous voulons que dans un premier temps, qu'il y ait des stations d'alevinage où les ménages piscicoles auront la facilité de trouver des alevins pour leurs étangs. Et en second lieu, c'est d'accroître la production. Parce que vous savez que Kindu, c'est une ville qui est le long du fleuve. Les gens pêchent certes, mais actuellement, la pêche que l'on exerce, c'est une pêche artisanale, mais qui ne produit plus les effets escomptés. C'est pourquoi nous voulons accroître la production des poissons par la pisciculture.
Nous sommes à la saison sèche. Il y a dans certains états où il n'y a plus d'eau et les pisciculteurs sont obligés de déplacer les poissons. Quelles mesures que Padrir envisage pour que vous ne puissiez pas perdre ce que vous avez investi dans ces pisciculteurs?
Oui, je crois deux mesures. La première mesure, c'est la sécurisation foncière. Parce que là où les pisciculteurs sont en train de travailler, c'est les espaces publics. Mais il arrive de fois que certaines personnes s'en accaparent à titre privé et ils chassent les pisciculteurs. C'est pourquoi nous lançons un vibrant appel aux autorités politico-administratives de pouvoir sécuriser les sites où nous investissons quand même des moyens pour que la population puisse avoir accès aux poissons. Et la deuxième mesure, c'est notre partenariat avec le Service national de développement de la pêche et de l'élevage, qu'on appelle SENADEPA, pour apporter des formations, pour un renforcement des capacités des bénéficiaires sur différentes techniques parce qu'en ce moment ici c'est vrai il y a une carence en eau mais nous en appelons à notre partenaire SENADEPA pour accroître des formations et permettre à la population d'avoir de diverses méthodes, de diverses techniques pour gérer les étangs, pour gérer les eaux dans les étangs.
Partout où vous êtes passé, les bénéficiaires ont demandé encore plus d'appui en termes de matériel, en termes d'équipement. Qu'en pensez-vous?
Oui, c'est vrai, ils ont raison. C'est vrai que même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Nous avons prévu de construire ici à Kindo une écloserie, ce qui va résoudre deux problèmes. On va résoudre le problème d'accès aux alevins et on va résoudre le problème d'aliments. Parce que c'est une écloserie qui est associée à une provenderie. Donc ça, c'est déjà un acquis. L'autre acquis, c'est que nous espérons l'année prochaine appuyer encore d'autres pisciculteurs en matériel. Non seulement en matériel, parce que les matériels seuls ne suffisent pas, mais ils seront aussi appuyés en formation pour accroître leurs connaissances.
Pendant qu'ils ont des semences qui sont en train d'élever et qui se posent encore un problème d'alimentation, votre projet n'inclut pas cet appui pour accompagner vos partenaires?
Oui, cet appui est compris dans le paquet que nous apportons. D'abord, nous apportons des aliments importés. Nous achetons à Kinshasa, nous envoyons ici. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un circuit qui n'est pas durable. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons pour une fabrication locale des aliments. Et là, une fois de plus, j'en appelle au service de l'État qui est attitré, le Senadepa, d'accroître des formations. Je sais qu'ils ont déjà commencé, mais ils vont accroître des formations pour que nous soyons à mesure d'avoir une industrie locale de production d'aliments ici à Kindu. Padrir seul ne peut pas avec les fonds du FIDA, mais nous savons que avec l'appui de tous, nous pouvons atteindre l'autosuffisance alimentaire.
Monsieur Modeste, merci.
Merci beaucoup, madame.
Notre invité répond aux questions de Florence Kizalunga depuis la ville de Kindu, province du Maniema. C'est la fin de ce journal coordonné par Élisée Chikota sous la supervision éditoriale de Martin Sebujangwe. Pierre Diassinois a assuré la mise en onde. Merci d'avoir écouté ce radio-journal que vous avez la possibilité de retrouver sur www.radiocapi.net.